Voilà, la mise en scène de quelqu'un, mais j'avais pas osé aussi flagorne.
Non, je crois que c'est un effet vérité. C'est une sorte de miroir. Bon, Dieu sait si son journal manifeste la sueur et les larmes qu'il a versées pour écrire ce truc-là. Il s'est aventuré, disait-il, comme ça, dans la France contemporaine pour la regarder de face. Et il la connaissait bien. C'était un peu au moment où nous, en même temps, à Strasbourg, on faisait le spectacle sur Vichy. On a fait un spectacle en même temps, quasiment, sur la peste. Et je crois que c'est la justesse, je dirais tragique, de la pièce qui fait rire. Parce que quand on parle aux gens, pour ceux qui l'ont vu, dans la même phrase, ils disent qu'ils ont beaucoup ri, et dans la même phrase, ils disent que c'est épouvantable, que c'est d'une méchanceté, mais d'une, enfin pas d'une méchanceté de caractère, d'une méchanceté d'observation. Et beaucoup de gens qui ne connaissent pas Jean-Luc ni son histoire pensent que ça a été écrit il y a 6 mois, effectivement. Les gens ne croient pas que ça a été écrit il y a 15 ans. Or, il y a 15 ans, on était quelques-uns quand même à se dire que, enfin, même il y a 30 ans, qu'il y avait des rémanences dans la société française à travers le langage, à travers la vérité du langage. Au fond, quand nous, on a fait Violence à Vichy, Vichy Fiction, c'était un spectacle sur le langage de la France. On sentait qu'il y avait une théâtralité dans ce langage-là. Et bien sûr, Jean-Luc a sa spécificité par rapport à ça. C'est que, c'est une chose très belle, c'est que les gens hésitent sur les mots. Hein, bon, vous avez dû le dire et le redire. C'est repentir de peintre, c'est-à-dire la façon dont nous-mêmes, et probablement dans la phrase que je viens de prononcer, il y avait des appels à précision, des non, j'ai pas voulu dire ce que je disais, alors je dis mieux, ah merde, c'est moins bien, donc je repars, etc. C'est des remords d'écriture qui sont mis dans la bouche des personnages. C'est-à-dire que ce qui est très spécifique et merveilleux là-dedans, c'est que les personnages sont porteurs d'écriture. Ils écrivent leur vie en parlant. Ils sont de l'écriture. Et on a mis 3-4 représentations à ajuster le tir réellement pour retrouver avec 700 personnes le sentiment que nous avions quand on était 5 dans la salle. C'est-à-dire qu'à la fois, il y avait des personnages, il y avait des situations, des choses cocasses et vraies, trop vraies pour être supportables, des choses comme ça, ce qui déclenche le rire, comme chez Fedot. Et puis, il y avait en même temps le fil, le tissu de la pièce qui s'écoutait, qui... Je ne sais pas, par exemple, s'il y a des gens qui étaient là vendredi soir, pour moi, vendredi soir, c'était une représentation qui était très, très applaudie, mais catastrophique. Parce que le public est parti en torche de rire et les acteurs n'ont pas résisté à ça, n'ont pas pu résister à ça. Il a fallu qu'on fasse un gros point samedi, point dans la figure. Et les représentations pour moi de samedi et de dimanche étaient admirables, enfin formidables. Parce que.
Avec ça samedi, il n'y a pas eu de départ en torche.
Non, pas du tout. Pas du tout. Il y avait. Enfin, je leur avais dit, j'avais dit aux acteurs, c'est vous qui commandez, c'est pas le public qui commande. C'est vous qui interprétez la pièce, c'est vous qui guidez le laser du spectateur, et ça s'est fait samedi et dimanche. Bon, maintenant c'est sur les rails, quoi. Mais il faut arriver à faire entendre le détail et le tout, et comment le tout progresse tout le temps. Parce que, comme disait Edouard Bond de ses pièces, c'est un monologue. C'est lui qui parle. Il est constamment présent près de l'acteur. Comme dit Bond, dans mes pièces, c'est moi qui les écris, c'est un discours de moi, il est incarné par des personnages, et le personnage tient l'énergie de mon discours jusqu'à un certain point. Quand il ne peut plus, c'est un autre personnage qui parle. Et là, même sur trois syllabes, le nombre de répliques de trois syllabes, eh ben, toutes ces répliques, on se disait en répétition, jamais anecdotique, toujours historique, toujours très important. Trois syllabes, très important. Sans ça, ça se transforme en sous-texte, très vite. C'est du sous-texte qu'on pourrait dire, hop, hop, hop. Et non. Dire une réplique de trois mots, c'est sa vie qui est en jeu.
C'est, je crois que c'est ce qui m'a frappé, justement, c'est le rapport entre tout le travail sur la langue, là, et la façon dont la pièce se construit, comme au présent, dans, par la présence de ces 17 personnages.
Alors, il y a un truc très fortiche dans la pièce, c'est que... il n'y a pas de fable, apparemment. Or, il y en a une. Une fable, c'est-à-dire, au sens brechtien du mot, c'est-à-dire une évolution de conflit, une position de conflit avec action des personnages par rapport à ce conflit, sauf que cette fable est dissimulée. Et que, je disais hier à François, que tout l'effort de précision des personnages pour arriver au plus près d'une expression, c'est pour arriver à ne rien dire, à ne pas dire. C'est pas pour arriver à dire, c'est pour arriver à cacher le fait qu'il n'y a pas de conseil d'administration, parce que la ville et l'État se sont entendus pour squeezer les vieux membres du conseil d'administration et pour nommer un jeune mec, etc., etc., qu'il y a une entente politique qui apparaît. Et je pense que c'est ça qui est épouvantable.
Jean-Pierre, justement, je vais te couper la parole alors que tu viens d'arriver.
Ouais, ouais.
Mais on va écouter un petit bout des prétendants. Dit par Sylvie, parce que précisément ce qu'on a, enfin, je crois qu'un des morceaux qu'on a choisi, c'est dire pour ne rien dire. Mmh. C'est en fait, c'est le discours au conseil d'administration d'une dame qui s'appelle Poitiers et qui est représentante de la mairie. Alors peu importe, ça c'est pour l'anecdote, mais vous allez entendre son discours qui est une autre forme de la répétition-variation du repentir de la langue, mais qui construit et qui déconstruit finalement ce qu'elle est en train de dire pour aboutir à « j'ai rien dit ».